Entrez. Ah, c'est vous.
Monsieur a bien dormi?
Ah non, Jean, un cauchemar. Mais vous-même, Jean, vous avez une mine. Qu'est-ce que vous avez?
J'ai que je ne peux plus me reposer, monsieur. Depuis le voyage de monsieur, ça me tient comme un sort. C'est à croire qu'il y a des revenants dans la maison.
Ça peut pas faire de mal.
Est-ce que je dors? Ah, toujours ce poids sur la poitrine. Je n'ose pas monter dans ma chambre. Il est encore là. Je sens qu'il m'épie.
Dehors là. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Il arrive un jour, voyez-vous, et il arrive de bonne heure pour beaucoup, où c'est fini de rire, comme on dit, parce que derrière tout ce qu'on regarde, c'est la mort qu'on aperçoit. Oh, vous ne comprenez même pas ce mot-là, vous, la mort. À votre âge, ça ne signifie rien. Au mien, il est terrible. Norbert de Varenne parlait d'une voix claire mais retenue. Il semblait surexcité et triste, d'une de ces tristesses qui tombent parfois sur les âmes et les rendent vibrantes comme la terre sous la gelée. Oui, reprit-il, la mort, on la comprend tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ni à propos de quoi, et alors tout change d'aspect dans la vie. Moi, depuis 15 ans, je la sens qui me travaille, comme si je portais en moi une bête rongeuse. Je l'ai senti peu à peu, mois par mois, heure par heure, me dégrader ainsi qu'une maison qui s'écroule. Elle m'a défiguré si complètement que je ne me reconnais pas. Je n'ai plus rien de moi l'homme radieux, frais et fort que j'étais à 30 ans. Oui, elle m'a émietté, la gueuse. Elle a accompli doucement et terriblement la longue destruction de mon être, seconde par seconde. Elle couvre la terre et remplit l'espace. Elle me gâte tout ce que j'aime, les clairs de lune, les levers de soleil, la grande mer, les belles rivières et l'air des soirs d'été si doux à respirer. Et maintenant je me sens mourir en tout ce que je fais. Chaque pas m'approche d'elle, chaque mouvement, chaque souffle hâte son odieuse besogne. Respirer, dormir, boire, manger, travailler, rêver, tout ce que nous faisons, c'est mourir. Vivre enfin, c'est mourir. Cet adieu vibrant à la vie est celui d'un vieux poète, personnage secondaire du célèbre roman de Maupassant, Bel Ami, que nous avons lu la semaine dernière. Sorte de double négatif du héros, Norbert de Varenne incarne le pessimisme radical dont a souffert Guy de Maupassant tout au long de sa vie. Un pessimisme maladif qui dit la vanité des êtres et des choses dans cette société bourgeoise fin de siècle où tout se vend et tout s'achète. L'amour, les femmes, la réussite, mais où rien n'échappe à la mort certaine. Ce soir, pour clore notre cycle consacré à Maupassant, je vous invite à suivre le fil de ses obsessions qui le mèneront jusqu'à l'un de ses derniers chefs-d'œuvre, Le Horla. Commençons par les premières amours de Maupassant pour la poésie. Disciple de Flaubert, le jeune homme se rêve d'abord poète. Voici une œuvre de jeunesse, publiée en 1876, où l'écrivain cède déjà à l'obsession d'une présence hostile. Le poème s'intitule « Terreur ». Ce soir-là, j'avais lu fort longtemps quelque auteur. Il était bien minuit et tout à coup j'eus peur. Peur de quoi? Je ne sais, mais une peur horrible. Je compris haletant et frissonnant d'effroi qu'il allait se passer une chose terrible. Alors il me sembla sentir derrière moi quelqu'un qui se tenait debout, dont la figure riait d'un rire atroce, immobile et nerveux. Et je n'entendais rien cependant, ô torture. Sentir qu'il se baissait à toucher mes cheveux et qu'il allait poser sa main sur mon épaule et que j'allais mourir au bruit de sa parole. Il se penchait toujours vers moi, toujours plus près, et moi, pour mon salut éternel, je n'aurais ni fait un mouvement ni détourné la tête. Ainsi que des oiseaux battus par la tempête, mes pensées tournoyaient comme un follet d'horreur. Une sueur de mort me glaçait chaque membre et je n'entendais pas d'autre bruit dans ma chambre que celui de mes dents qui claquaient de terreur. Un craquement se fit soudain, fou d'épouvante, ayant poussé le plus terrible hurlement qui soit jamais sorti de poitrine vivante. Je tombai sur le dos, raide et sans mouvement. La même année, Maupassant publie l'une de ses premières nouvelles. Elle s'intitule « Sur l'eau » et s'inspire de la grande passion du jeune homme pour un loisir à la mode, le canotage sur la Seine. Mais le décor n'est pas celui des dimanches printaniers en galante compagnie. Nous voici au contraire au cœur d'une nuit d'épouvante. Écoutons ce récit d'un pêcheur pourtant aguerri. Par une belle soirée, il décide d'aller fumer sa pipe au milieu de la rivière. Le voici qui jette l'ancre. Le fleuve était parfaitement tranquille, mais je me sentis ému par le silence extraordinaire qui m'entourait. Soudain, à ma droite, contre moi, une grenouille coassa. Je tressaillis. Elle se tut. Je n'entendis plus rien et je résolus de fumer un peu pour me distraire. Cependant, quoique je fusse un culotteur de pipe renommé, je ne pus pas. Dès la seconde bouffée, le cœur me tourna et je cessai. Je me mis à chantonner. Le son de ma voix m'était pénible. Alors je m'étendis au fond du bateau et je regardai le ciel. Pendant quelque temps, je demeurai tranquille, mais bientôt les légers mouvements de la barque m'inquiétèrent. Il me sembla qu'elle faisait des embardées gigantesques, touchant tour à tour les deux berges du fleuve. Puis je crus qu'un être ou qu'une force invisible l'attirait doucement au fond de l'eau et la soulevait ensuite pour la laisser retomber. J'étais ballotté comme au milieu d'une tempête. J'entendis des bruits autour de moi, je me dressai d'un bond. L'eau brillait. Tout était calme. Je compris que j'avais les nerfs un peu ébranlés et je résolus de m'en aller. Je tirai sur ma chaîne, le canot se mit en mouvement, puis je sentis une résistance. Je tirai plus fort, l'ancre ne vint pas. Je fus pris de colère et je secouai la chaîne rageusement. Rien ne remua. Je m'assis découragé et je me mis à réfléchir sur ma position. Comme le temps demeurait fort beau, je pensais que je ne tarderais point sans doute à rencontrer quelques pêcheurs qui viendraient à mon secours. Je possédais une bouteille de rhum, j'en bus deux ou trois verres, et ma situation me fit rire. Soudain, un petit coup cogna contre mon bordage. Je fis un soubresaut et une sueur froide me glaça des pieds à la tête. Ce bruit venait sans doute de quelques bouts de bois entraînés par le courant, mais cela avait suffi. Et je me sentis envahi de nouveau par une étrange agitation. Cependant, la rivière s'était peu à peu couverte d'un brouillard blanc, très épais, qui rampait sur l'eau fort bas, de sorte que, en me dressant debout, je ne voyais plus le fleuve, ni mes pieds, ni mon bateau, mais j'apercevais seulement les pointes des roseaux, puis, plus loin, la plaine toute pâle de la lumière de lune, avec de grandes taches noires qui montaient dans le ciel, formées par des groupes de peupliers d'Italie. J'étais comme enseveli jusqu'à la ceinture dans une nappe de coton d'une blancheur singulière. Et il me venait des imaginations fantastiques. Je me figurais qu'on essayait de monter dans ma barque et que la rivière, cachée par ce brouillard opaque, devait être pleine d'êtres étranges qui nageaient autour de moi. J'éprouvais un malaise horrible. J'avais les tempes serrées, mon cœur battait à m'étouffer. Et perdant la tête, je pensais à me sauver à la nage. Puis aussitôt, cette idée me fit frissonner d'épouvante. J'essayais de me raisonner. Je me sentais la volonté bien ferme de ne point avoir peur. Mais il y avait en moi autre chose que ma volonté, et cette autre chose avait peur. Je me demandais ce que je pouvais redouter. Mon moi brave railla mon moi poltron, et jamais aussi bien que ce jour-là, je ne saisis l'opposition des deux êtres qui sont en nous, l'un voulant, l'autre résistant, et chacun l'emportant tour à tour. Cet effroi bête et inexplicable grandissait toujours et devenait de la terreur. Je demeurais immobile, les yeux ouverts, l'oreille tendue et attendant. quoi. Je n'en savais rien, mais ce devait être terrible. Alors une idée me vint, et je me mis à crier de toutes mes forces. Puis j'écoutais. Un chien hurlait très loin. Je pris de nouveau ma bouteille de rhum, je bus encore et m'étendis de tout mon long au fond du bateau. Je restais ainsi une heure, peut-être deux, sans dormir, les yeux ouverts, avec des cauchemars autour de moi. Je n'osais plus me lever. À la fin, je me soulevais avec des précautions infinies, comme si ma vie eût dépendu du moindre bruit que j'aurais fait, et je regardais par-dessus bord. Je fus ébloui par le plus merveilleux, le plus étonnant spectacle qu'il soit possible de voir. C'était une de ces fantasmagories du pays des fées, une de ces visions racontées par les voyageurs qui reviennent de très loin et que nous écoutons sans les croire. Le brouillard, qui 2 heures auparavant flottait sur l'eau, s'était peu à peu retiré et ramassé sur les rives, laissant le fleuve absolument libre. De sorte qu'on ne voyait rien autre chose que cette rivière lamée de feu entre ces 2 montagnes blanches. Et là-haut, sur ma tête, s'étalait, pleine et large, une grande lune illuminante au milieu du ciel bleuâtre et laiteux. Chose étrange, je n'avais plus peur. J'étais au milieu d'un paysage tellement extraordinaire que les singularités les plus fortes n'eussent pu m'étonner. Combien de temps cela dura-t-il, je n'en sais rien, car j'avais fini par m'assoupir. Quand je rouvris les yeux, la lune était couchée, le ciel plein de nuages, l'eau clapotait lugubrement, le vent soufflait, il faisait froid, l'obscurité était profonde. Je bus ce qui me restait de rhum, puis j'écoutais en grelottant le froissement des roseaux et le bruit sinistre de la rivière. Soudain, je crus sentir qu'une ombre glissait tout près de moi. Je poussai un cri, une voix répondit, c'était un pêcheur. Je l'appelai, il s'approcha et je lui racontai ma mésaventure. Il mit alors son bateau bord à bord avec le mien et tous les deux nous tirâmes sur la chaîne. L'ancre ne remua pas. Le jour venait, sombre, gris, pluvieux, glacial, une de ces journées qui vous apportent des tristesses et des malheurs. J'aperçus une autre barque, nous la hélâmes. L'homme qui la montait unit ses efforts aux nôtres. Alors, peu à peu, l'ancre céda. Elle montait, mais doucement, doucement, et chargé d'un poids considérable. Enfin, nous aperçûmes une masse noire et nous la tirâmes à mon bord. C'était le cadavre d'une vieille femme qui avait une grosse pierre au cou.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Funny how secrets travel. I start to believe if I were to leave, pink sky, the man chains his hands held high. Cruise me, yacht, cruise me, babe. A blonde leaf beyond, beyond, beyond. Blow me down. No return. I'm derailed. 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 I'm derailed. Derailed. So cruise me, baby. Cruise me, baby.
l'inspecteur, c'est vrai qu'il doit son double.
C'est pas le genre de choses qu'on invente, tu sais. À la rigueur, une fois, pour amuser les amis, mais jamais au point de tirer au revolver. Encore heureux qu'il ait visé son double. Hein. Cela s'appelle l'autoscopie. Beaucoup d'écrivains ont eu ça. Musset, Goethe. Ils voyaient leur double.
Alors d'après vous, il devient fou. Vraiment fou. Fou au point qu'on devra l'enfermer.
Découvrons à présent une autre apparition nocturne. 10 ans plus tard, en 1886, Maupassant publie un recueil intitulé « La petite roque ». Le titre est celui d'une nouvelle poignante, relatant le viol et le meurtre d'une fillette de 12 ans au bord d'une rivière. Après enquête, le meurtrier n'est pas retrouvé. Il s'agit en réalité d'un personnage au-delà de tout soupçon, le maire du village, Monsieur Renardet. Ayant échappé à la justice, le voici en proie à ses démons intérieurs, le remords et la culpabilité. Alors, il eut peur des soirs, peur de l'ombre tombant autour de lui. Il ne savait pas encore pourquoi les ténèbres lui semblaient effrayantes, mais il les redoutait d'instinct, il les sentait peuplées de terreur. Le jour clair ne se prête point aux épouvantes, mais la nuit opaque, plus épaisse que des murailles et vide, la nuit infinie, si noire, si vaste, où l'on peut frôler d'épouvantables choses, la nuit où l'on sent errer, rôder l'effroi mystérieux, lui paraissait cacher un danger inconnu, proche et menaçant, lequel ? Il le sut bientôt. Comme il était dans son fauteuil assez tard, un soir qu'il ne dormait pas, il crut voir remuer le rideau de sa fenêtre. Il attendit, inquiet, le cœur battant. La draperie ne bougeait plus. Puis soudain, elle s'agitait de nouveau. Du moins, il pensa qu'elle s'agitait. Il n'osait point se lever. Il n'osait plus respirer. Et pourtant, il était brave. Il s'était battu souvent à la guerre. Et il aurait aimé découvrir chez lui des voleurs. Était-il vrai qu'il remuait ce rideau ? Il se le demandait, craignant d'être trompé par ses yeux. C'était si peu de chose, d'ailleurs. Un léger frisson de l'étoffe, une sorte de tremblement des plis, à peine une ondulation comme celle que produit le vent. Renardet demeurait les yeux fixes, le cou tendu. Et brusquement, il se leva, honteux de sa peur, fit 4 pas, saisit la draperie à 2 mains et l'écarta largement. Il ne vit rien d'abord que les vitres noires, noires comme des plaques d'encre luisantes. La nuit, la grande nuit impénétrable s'étendait par derrière jusqu'à l'invisible horizon. Il restait debout en face de cette ombre illimitée et tout à coup il aperçut une lueur mouvante qui semblait éloignée. Alors il approcha son visage du carreau, pensant qu'un pêcheur d'écrevisses braconnait sans doute, car il était minuit passé et cette lueur rampait au bord de l'eau sous la futaie. Comme il ne distinguait pas encore, Renardet enferma ses yeux entre ses mains. Et brusquement, cette lueur devint une clarté, et il aperçut la petite roque, nue et sanglante, sur la mousse. Il recula, crispé d'horreur, heurta son siège et tomba sur le dos. Il y resta quelques minutes, l'âme en détresse, puis il s'assit et se mit à réfléchir. Il avait eu une hallucination, voilà tout. Quoi d'étonnant d'ailleurs à ce que le souvenir de son crime jeta en lui, parfois, la vision de la mort. S'étant relevé, il but un verre d'eau. Il songeait « Que vais-je faire si cela recommence ?» Et cela recommencerait, il le sentait, il en était sûr. Déjà la fenêtre sollicitait son regard, l'appelait, l'attirait. Il s'élança et saisit le rideau d'une main si brutale qu'il le jeta bas avec sa galerie. Puis il colla avidement sa face contre la vitre. Il ne vit rien. Tout était noir au dehors. Il respira avec la joie d'un homme dont on vient de sauver la vie. Donc il retourna s'asseoir. Mais presque aussitôt le désir le reprit de regarder de nouveau par la fenêtre. Depuis que le rideau était tombé, elle faisait une sorte de trou sombre, attirant, redoutable, sur la campagne obscure. Pour ne point céder à cette dangereuse tentation, il se dévêtit, souffla ses lumières, se coucha et ferma les yeux. Immobile sur le dos, la peau chaude et moite, il attendait le sommeil. Une grande lumière tout à coup traversa ses paupières. Il les ouvrit, croyant sa demeure en feu. Tout était noir. Et il se mit sur son coude pour tâcher de distinguer sa fenêtre qui l'attirait toujours, invinciblement. À force de chercher à voir, il aperçut quelques étoiles. Et il se leva, traversa sa chambre à tâtons, trouva les carreaux avec les mains étendues, appliqua son front dessus. Là-bas, sous les arbres, le corps de la fillette luisait comme du phosphore, éclairant l'ombre autour de lui. Renardet poussa un cri et se sauva vers son lit où il resta jusqu'au matin, la tête cachée sous l'oreiller. À partir de ce moment, sa vie devint intolérable. Il passait ses jours dans la terreur des nuits, et chaque nuit, la vision recommençait. À peine enfermé dans sa chambre, il essayait de lutter, mais en vain. Une force irrésistible le soulevait et le poussait à sa vitre, comme pour appeler le fantôme, et il le voyait aussitôt, couché d'abord au lieu du crime, couché les bras ouverts, les jambes ouvertes, tel que le corps avait été trouvé. Puis la morte se levait et s'en venait à petits pas, ainsi que l'enfant avait fait en sortant de la rivière. Elle venait vers lui, comme elle était venue le jour du crime, vers le meurtrier. Et l'homme reculait devant l'apparition. Il reculait jusqu'à son lit et s'affaissait dessus, sachant bien que la petite était entrée et qu'elle se tenait maintenant derrière le rideau qui remuerait tout à l'heure. Et jusqu'au jour, il regardait ce rideau d'un œil fixe, s'attendant sans cesse à voir sortir sa victime. Mais elle ne se montrait plus. Elle restait là, sous l'étoffe, parfois agitée d'un tremblement. Et Renardet, les doigts crispés sur ses draps, les serrait ainsi qu'il avait serré la gorge de la petite roque. Il écoutait sonner les heures. Il entendait battre dans le silence le balancier de sa pendule et les coups profonds de son cœur. Et il souffrait, le misérable, plus qu'aucun homme n'avait jamais souffert.
Tes yeux ?
C'est bizarre. J'ai comme l'impression qu'ils me sortent de la tête.
Et ça me donne des migraines, surtout. Tu es inquiet?
Tu sais très bien que je ne crains pas la mort. Je serais même capable de me tuer par plaisanterie.
Meurtre, suicide, disparitions inexpliquées, la mort hante l'œuvre de Maupassant. Mais elle n'est pas toujours liée à des circonstances extraordinaires. Assistons désormais à une chronique de la mort ordinaire, chez de petites gens pour lesquels l'écrivain a une passion particulière. Voici un extrait de Misère humaine, une nouvelle publiée la même année que La Petite Roque en 1886. Lecteur du philosophe allemand Arthur Schopenhauer, Maupassant retient de sa morale pessimiste une seule vertu, la pitié, faculté de compassion. Suivons le narrateur qui accompagne un médecin en visite chez des malades atteints de la diphtérie. Nous arrivâmes à la ferme. Une odeur forte de maladie et d'humidité, de fièvre et de moisissure, d'hôpital et de cave nous saisit à la gorge. Il faisait froid, un froid de marécage dans cette maison sans feu, sans vie, grise et sinistre. L'horloge était arrêtée. La pluie tombait par la grande cheminée et on entendait dans un coin sombre un bruit de soufflet rauque et rapide. C'était l'enfant qui respirait. La mère étendue dans une sorte de grande caisse de bois, le lit des paysans, et cachée par de vieilles couvertures et de vieilles hardes, semblait tranquille. Elle tourna un peu la tête vers nous. Le médecin lui demanda « Avez-vous une chandelle ?» Elle répondit d'une voix basse, accablée « Dans le buffet. » Il prit la lumière et m'emmena au fond de l'appartement vers la couchette de la petite fille. Elle haletait, les joues creuses, les yeux luisants, les cheveux mêlés, effrayantes. Dans son cou maigre et tendu, des creux profonds se formaient à chaque aspiration. Allongée sur le dos, elle serrait de ses deux mains des loques qui la couvraient, et dès qu'elle nous vit, elle se tourna la face pour se cacher dans la paillasse. Je la pris par les épaules, et le docteur, la forçant à montrer sa gorge, en arracha une grande peau blanchâtre qui me parut sèche comme du cuir. Elle respira mieux tout de suite et but un peu. La mère, soulevée sur un coude, nous regardait. Elle balbutia « C'est-il fait ?»« Oui, c'est fait. » « J'allons-t-y rester toute seule ? » Une peur affreuse faisait frémir sa voix, peur de cet isolement, de cet abandon, des ténèbres et de la mort qu'elle sentait si proche. Je répondis « Non, brave femme, j'attendrai que le docteur vous ait envoyé la garde. » Et en me tournant vers le docteur, « Envoyez-lui la mère Mauduit, je la paierai. »« Parfait, je vous l'envoie tout de suite. » Il me serra la main, sortit, et j'entendis son cabriolet qui s'en allait sur la route humide. Je restais seul avec les deux mourantes. Mon chien s'était couché devant la cheminée noire, et il me fit songer qu'un peu de feu serait utile à nous tous. Je ressortis donc pour chercher du bois et de la paille, et bientôt une grande flamme éclaira jusqu'au fond de la pièce le lit de la petite qui recommençait à haleter, et je m'assis, tendant mes jambes vers le foyer. La pluie battait les vitres, le vent secouait le toit, j'entendais l'haleine courte, dure, sifflante des deux femmes, et le souffle de mon chien qui soupirait de plaisir, roulé devant l'âtre clair. La vie. La vie. Qu'est-ce que cela? Ces deux pauvresses qui avaient toujours dormi sur la paille, mangé du pain noir, travaillé comme des bêtes, souffert toutes les misères de la terre, allaient mourir. Qu'avaient-elles fait? Le père était mort, le fils était mort. L'angine, l'affreuse angine qui étrangle les misérables, avait pénétré dans la ferme des Martinets. Ces gueux pourtant passaient pour de bonnes gens qu'on aimait, qu'on estimait, de simples et honnêtes gens. Je regardais fumer mes bottes et dormir mon chien, et en moi entrait une joie inconnue, profonde et honteuse, en comparant mon sort à celui de ces forçats. La petite fille se remit à râler, et tout à coup ce souffle rauque me devint intolérable. Il me déchirait comme une lime dont chaque coup mordait mon cœur. J'allai vers elle. « Veux-tu boire ?» lui dis-je. Elle remua la tête pour dire oui, et je lui versai dans la bouche un peu d'eau qui ne passa point. La mère, restée plus calme, s'était retournée pour regarder son enfant. Et voilà que soudain une peur me frôla. Une peur sinistre qui me glissa sur la peau comme le contact d'un monstre invisible. Où étais-je? Je ne le savais plus. Est-ce que je rêvais? Quel cauchemar m'avait saisi? Est-ce vrai que des choses pareilles arrivent? Qu'on mourait ainsi? Et je regardais dans les coins sombres de la chaumière comme si je m'étais attendu à voir, blottie dans un angle obscur, une forme hideuse, innommable, effrayante. Celle qui guette la vie des hommes et les tue, les ronge, les écrase, les étrangle, qui aime le sang rouge, les yeux allumés par la fièvre, les rides et les flétrissures, les cheveux blancs et les décompositions. Le feu s'éteignait. J'y rejetais du bois et m'y chauffais le dos tant j'avais froid dans les reins. Au moins j'espérais mourir dans une bonne chambre, moi, avec des médecins autour de mon lit et des remèdes sur la table. Et ces femmes étaient restées seules 24 heures dans cette cabane sans feu, n'ayant à boire que de l'eau et râlant sur de la paille. J'entendis soudain le trot d'un cheval et le roulement d'une voiture, et la garde entra, tranquille, contente d'avoir trouvé de la besogne, sans étonnement devant cette misère. Je lui laissai quelque argent et je me sauvai avec mon chien. Je me sauvais comme un malfaiteur, courant sous la pluie, croyant entendre toujours le sifflement des deux gorges, courant vers ma maison chaude où m'attendaient mes domestiques en préparant un bon dîner. Je n'oublierai jamais cela et tant d'autres choses encore qui me font haïr la terre.
Tu travailles trop, peut-être? Ta pupille droite est toujours dilatée.
Tu deviens fou, n'est-ce pas?
C'est le roman que tu écris?
Oui.
Je peux. Et le rossignol qui chante au clair de lune, près de sa femelle qui couve, ne savent pas l'éternel massacre de ce lieu qui les a créés. Le mouton qui...
Hein? Ben voilà. Je peux pas continuer. Je ne trouve plus mes mots. Je sais que je deviens fou.
Fasciné par les maladies mentales, l'écrivain visite régulièrement les asiles. Un événement biographique le marque profondément. En 1889, son frère cadet, Hervé, meurt à l'hôpital psychiatrique de Lyon. Atteint de troubles neurologiques liés à la syphilis, Maupassant est lui-même admis en 1892 à la clinique du docteur Blanche à Paris, où il meurt l'année suivante, à l'âge de 43 ans. Parmi ses obsessions, découvrant ce phénomène d'aliénation à travers un extrait de « Lui », une nouvelle publiée en 1883. Alors ? Eh bien, j'ai peur de moi. J'ai peur de la peur. Peur des spasmes de mon esprit qui s'affolent. Peur de cette horrible sensation de la terreur incompréhensible. Cela a commencé l'an dernier d'une singulière façon. C'était en automne par un soir humide. Je me sentais seul, une solitude infinie et navrante m'entourait. Que faire ? Je m'assis. Puis soudain un frisson de froid me courut dans le dos. Je sentis qu'il fallait m'en aller, me secouer. Je sortis. Il faisait triste partout. Les trottoirs trempés luisaient. J'errais longtemps ainsi et vers minuit je me mis en route pour rentrer chez moi. J'étais fort calme, mais fort lent. Mon concierge, qui se couche avant 11 heures, m'ouvrit tout de suite, contrairement à son habitude. Et je pensais, tiens, un autre locataire vient sans doute de remonter. J'entrai. Mon feu brûlait encore et éclairait même un peu l'appartement. Je pris une bougie pour aller l'allumer au foyer, lorsqu'en jetant les yeux devant moi, j'aperçus quelqu'un assis dans mon fauteuil et qui se chauffait les pieds en me tournant le dos. Je n'eus pas peur. Oh non, pas le moins du monde. Une supposition très vraisemblable me traversa l'esprit. Celle qu'un de mes amis était venu pour me voir. Et toutes les circonstances étranges de mon retour, en une seconde, me revinrent à la pensée. Le cordon déjà tiré, ma porte seulement poussée. Mon ami, dont je ne voyais que les cheveux, s'était endormi devant mon feu en m'attendant, et je m'avançais pour le réveiller. Je le voyais parfaitement, un de ses bras pendant à droite, ses pieds étaient croisés l'un sur l'autre, sa tête penchée un peu sur le côté gauche du fauteuil indiquait bien le sommeil. Je me demandais qui est-ce. On y voyait d'ailleurs peu dans la pièce. J'avançais la main pour lui toucher l'épaule. Je rencontrais le bois du siège. Il n'y avait plus personne. Le fauteuil était vide. Quel sursaut, miséricorde! Je reculais d'abord comme si un danger terrible eût apparu devant moi. Puis je me retournais, sentant quelqu'un derrière mon dos. Puis aussitôt, un impérieux besoin de revoir le fauteuil me fit pivoter encore une fois. Et je demeurais debout, haletant d'épouvante, tellement éperdu que je n'avais plus une pensée, prêt à tomber. Mais je suis un homme de sang-froid, et tout de suite la raison me revint. Je viens d'avoir une hallucination, voilà tout. C'était là un accident nerveux de l'appareil optique, rien de plus. Un peu de congestion, peut-être. Et j'allumai ma bougie. Je m'aperçus en me baissant vers le feu que je tremblais. Et je me relevais d'une secousse comme si on m'eût touché par derrière. Je n'étais point tranquille. Je fis quelques pas, je parlais haut. Puis je fermai la porte de ma chambre à double tour et je me sentis un peu rassuré. Alors je me couchai et je soufflai ma lumière. Pendant quelques minutes, tout alla bien. Puis le besoin me vint de regarder dans ma chambre et je me mis sur le côté. Mon feu n'avait plus que 2 ou 3 tisons rouges qui éclairaient juste les pieds du fauteuil et je crus revoir l'homme assis dessus. J'enflammai une allumette d'un mouvement rapide. Je m'étais trompé, je ne voyais plus rien. Puis je refis l'obscurité et je tâchai de m'endormir. Je n'avais pas perdu connaissance depuis plus de 5 minutes quand j'aperçus en songe et nettement, comme dans la réalité, toute la scène de la soirée. Je me réveillai éperdument et ayant éclairé mon logis, je demeurai assis dans mon lit sans oser même essayer de redormir. 2 fois cependant le sommeil m'envahit, malgré moi, pendant quelques secondes. 2 fois, je revis la chose. Je me croyais devenu fou. Quand le jour parut, je me sentis guéri. C'était fini, bien fini. J'avais eu la fièvre, le cauchemar, que sais-je. Je me trouvais néanmoins fort bête. Je me levais, allais et venais d'un air gaillard, mais je ne me sentais pas rassuré. Je me retournais par sursaut. L'ombre des coins m'inquiétait. Depuis ce jour-là, j'ai peur tout seul la nuit. Je la sens là, près de moi, autour de moi, la vision. Elle ne m'est point apparue de nouveau, oh non. Et qu'importe d'ailleurs, puisque je n'y crois pas, puisque je sais que ce n'est rien. Elle me gêne cependant parce que j'y pense sans cesse. Une main pendait du côté droit, sa tête était penchée comme celle d'un homme qui dort. Allons, assez, nom de Dieu. Je n'y veux plus songer. Qu'est-ce que cette obsession pourtant ? Pourquoi cette persistance ? Il me hante. C'est fou, mais c'est ainsi. Qui, il ? Je sais bien qu'il n'existe pas, que ce n'est rien. Il n'existe que dans mon appréhension, que dans ma crainte, que dans mon angoisse. Allons, assez. Oui, mais j'ai beau me raisonner, je ne peux rester seul chez moi, parce qu'il y est. Je ne le verrai plus, je le sais. Il ne se montrera plus. C'est fini, cela. Mais il y est tout de même, dans ma pensée. Il demeure invisible. Cela n'empêche qu'il soit. Il est derrière les portes, dans l'armoire fermée, sous le lit, dans tous les coins obscurs, dans toutes les ombres. Si je tourne la porte, si j'ouvre l'armoire, si je baisse ma lumière sous le lit, si j'éclaire les coins, les ombres, il n'y est plus. Il n'en est pas moins derrière moi, encore. C'est stupide, mais c'est atroce. Que veux-tu, je n'y peux rien. Ris si tu veux, cela est affreux, inguérissable. Mais si j'étais marié, si nous étions deux chez moi, je sens, oui, je sens assurément qu'il n'y serait plus. Car il est là parce que je suis seul, uniquement parce que je suis seul.
Je passais par hasard, c'est vrai, par hasard, je suis entré content de vous trouver. Je connais la petite fille, Yonath, le mec si fort en maths, la dame au chapeau de fleurs, son coiffeur. Je reconnais cette pauvre Suzy, son Jules aussi, mais qui sait, dit Benoît. J'arrive pas bien, j'arrive pas bien à la voir. Qui sait? Si c'était le portrait du grand-père, à 30 ans, retour de guerre, on verrait dessus le fusil, la gourde et la crève. Et si c'était un rêve, il aurait disparu sitôt vu. Si c'était un trou de mémoire, j'irais voir. Qui c'est, type en noir? J'arrive pas bien, j'arrive pas bien à voir. Qui c'est? Je reconnais les seins que j'ai touchés, les yeux que j'ai cherchés, ceux qui m'ont pas vu. Là dans le coin je reconnais personne, mais faut pas que ça m'étonne, c'est des nouveaux venus dans la rue. Et de voir de nouveaux visages, c'est comme un voyage. Mais qui c'est, type en noir? J'arrive pas bien à voir. Qui c'est? Je suis rentré par hasard, c'est vrai, par hasard, je suis resté, la salle s'est vidée. Je reconnais la vieille chaise bancale, derrière le rideau sale, la porte dérobée, mal fermée. Et là dans le coin du noir, le miroir, et qui c'est, type en noir? J'arrive pas bien à voir. Qui c'est?
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Et voici pour conclure notre dernière émission consacrée à Maupassant, l'ultime degré de l'aliénation lorsque la violence meurtrière se retourne contre soi-même. Cette présence hostile, le diable ou la mort qui rôde, bête monstrueuse ou spectre, l'écrivain lui donne enfin un nom, le hors-là, comme quelque chose qui se situe hors là, hors de soi, comme un autre, double menaçant et terrifiant. L'auteur relate souvent cette anecdote. Rentrant le soir chez lui, il a l'impression de se voir, lui-même, attablé à son bureau, en train d'écrire. Voici un extrait de cette célèbre nouvelle, Le Hors-là, qui prend la forme d'un journal intime. Publiée en 1887, elle est devenue l'un des chefs-d'œuvre de la littérature fantastique. 4 juillet. Décidément, je suis repris. Mes cauchemars anciens reviennent. Cette nuit, j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi et qui, sa bouche sur la mienne, buvait ma vie entre mes lèvres. Oui, il puisait dans la gorge, comme aurait fait une sangsue. 17 août. Ah, quelle nuit! Quelle nuit! Je m'assoupis en rêvant au vent frais du soir. Or, ayant dormi environ 40 minutes, je rouvris les yeux sans faire un mouvement, réveillé par je ne sais quelle émotion confuse et bizarre. Je ne vis rien d'abord, puis tout à coup il me sembla qu'une page du livre restée ouverte sur ma table venait de tourner toute seule. Aucun souffle d'air n'était entré par ma fenêtre. Je fus surpris et j'attendis. Au bout de 4 minutes environ, je vis de mes yeux une autre page se soulever et se rabattre sur la précédente, comme si un doigt l'eût feuilleté. Mon fauteuil était vide, semblait vide, mais je compris qu'il était là, lui, assis, à ma place, et qu'il lisait. D'un bond furieux, d'un bond de bête révoltée qui va éventrer son dompteur, je traversai ma chambre pour le saisir, pour l'étreindre, pour le tuer. Mais mon siège, avant que je l'eusse atteint, se renversa comme si on eût fui devant moi. Ma table oscilla, ma lampe tomba et s'éteignit, et ma fenêtre se ferma comme si un malfaiteur surpris se fût élancé dans la nuit en prenant à pleine main les battants. Donc il s'était sauvé. Il avait eu peur. Peur de moi, lui. 19 août. À présent, je sais, je devine, le règne de l'homme est fini. Il est venu. Celui que redoutaient les premières terreurs des peuples naïfs, celui qu'exorcisaient les prêtres inquiets, que les sorciers évoquaient par les nuits sombres sans le voir apparaître encore, à qui l'on prêtait les formes monstrueuses ou gracieuses des gnomes, des esprits, des génies, des fées, des farfadets, les médecins qui depuis 10 ans déjà ont découvert la nature de sa puissance, la domination d'un mystérieux vouloir sur l'âme humaine devenue esclave. Ils ont appelé cela magnétisme, hypnotisme, que sais-je. Je les ai vus s'amuser comme des enfants imprudents avec cette horrible puissance. Malheur à nous, malheur à l'homme, il est venu. Comment se nomme-t-il? Oui, il le crie. J'écoute. Je ne peux pas, répète. Le hors-là. J'ai entendu. Le hors-là. C'est lui, le hors-là, il est venu. Le hors-là va faire de l'homme ce que nous avons fait du cheval et du bœuf, sa chose, son serviteur et sa nourriture, par la seule puissance de sa volonté. Malheur à nous. Qu'ai-je donc? C'est lui, le hors-là, qui me hante, qui me fait penser ses folies. Il est en moi, il devient mon âme, je le tuerai. 19 août. Je le tuerai, je l'ai vu, je me suis assis hier soir à ma table et je fis semblant d'écrire avec une grande attention. Je savais bien qu'il viendrait rôder autour de moi, tout près, si près que je pourrais peut-être le toucher, le saisir, et alors j'aurais la force des désespérés pour l'étrangler, l'écraser, le mordre, le déchirer, et je le guettais avec tous mes organes surexcités. Donc je faisais semblant d'écrire pour le tromper, car il m'épiait lui aussi. Et soudain je sentis, je fus certain qu'il lisait par-dessus mon épaule, qu'il était là frôlant mon oreille. Je me dressais, les mains tendues, en me tournant si vite que je faillis tomber. Eh bien, on y voyait comme en plein jour, et je ne me vis pas dans ma glace. Elle était vide, claire, profonde, pleine de lumière. Mon image n'était pas dedans. Et j'étais en face, moi. Et je regardais cela avec des yeux affolés. Et je n'osais plus avancer, sentant bien qu'il était là, mais qu'il m'échapperait encore, comme j'eus peur. 10 septembre. Tout à coup, j'ai senti qu'il était là. Et une joie folle m'a saisie. Je me suis levé lentement, j'ai fermé ma persienne de fer, et revenant à pas tranquille vers la porte, j'ai fermé la porte aussi à double tour. Quelle joie! Je le tenais. Alors je descendis en courant. Je pris dans mon salon, sous ma chambre, mes 2 lampes et je renversai toute l'huile sur le tapis, sur les meubles, partout. Puis j'y mis le feu et je me sauvai après avoir bien refermé à double tour la grande porte d'entrée. Et j'allais me cacher au fond du jardin dans un massif de lauriers. Comme ce fut long, tout était noir, muet, immobile, pas un souffle d'air. Je regardais ma maison et j'attendais. Je croyais déjà que le feu s'était éteint tout seul ou qu'il l'avait éteint lui. Quand une de ses fenêtres d'en bas creva sous la poussée de l'incendie et une flamme, une grande flamme rouge et jaune, longue, molle, caressante, monta le long du mur blanc et le baisa jusqu'au toit. 2 autres fenêtres éclatèrent aussitôt et je vis que tout le bas de ma demeure n'était plus qu'un effrayant brasier. Mais un cri horrible suraigu, déchirant. Un cri de femme passa dans la nuit et deux mansardes s'ouvrirent. J'avais oublié mes domestiques et je vis leurs faces affolées, leurs bras qui s'agitaient. Alors, éperdu d'horreur, je me mis à courir vers le village en hurlant « Au secours! Au secours! Au feu! Au feu !» Je rencontrais des gens qui s'en venaient déjà et je retournais avec eux pour voir. La maison maintenant n'était plus qu'un bûcher horrible et magnifique, un bûcher monstrueux, éclairant toute la terre, un bûcher où brûlaient des hommes et où il brûlait aussi lui. Lui, mon prisonnier, l'être nouveau, le nouveau maître, le Horla. Soudain, le toit tout entier s'engloutit entre les murs et un volcan de flammes jaillit jusqu'au ciel. Par toutes les fenêtres ouvertes sur la fournaise, je voyais la cuve de feu et je pensais qu'il était là, dans ce four, mort. Mort ? Peut-être. Son corps n'était-il pas indestructible par les moyens qui tuent les nôtres? S'il n'était pas mort, seul peut-être le temps a prise sur l'être invisible et redoutable. Non. Non. Sans aucun doute, il n'est pas mort. Alors, il va donc falloir que je me tue, moi.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Mathieu Leroux. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki. Bonne soirée et à la semaine prochaine.